Bonsoir, Jean-Claude Bayende, gouverneur de la province de l'Équateur, a été relevé de ses fonctions. Décision du président de la République dans une ordonnance publiée vendredi dernier. Il est notamment reproché à Bayende l'entretien des milices et la mauvaise gestion des finances. Comment analyser la révocation du gouverneur de la province de l'Équateur? Que faut-il pour relancer le développement de cette province? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Maître Soudi Kimputu Alimasi, expert en décentralisation. Maître Soudi, bonsoir.
Bonsoir.
Michel Soumé, économiste et expert indépendant. Michel Soumé, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Joseph Kongolo, analyste politique. Bonsoir, Joseph.
Bonsoir, madame.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de José Itoko de Mbandaka dans la province de l'Équateur. C'est triste pour la province de perdre une personnalité comme Jean-Claude Bayende qui a donné l'emploi aux jeunes et qui est à la base de la construction des infrastructures. Ce qu'on lui reproche n'est pas vrai. C'est juste de la haine. Clarisse Yaya de Kinshasa. La décision du président Kabila est à saluer. C'est le moment de trouver un homme qui se focalisera uniquement sur les développements de la province par l'agriculture, la pêche industrielle, l'éducation et l'urbanisme de la province, car c'est une province riche et pleine d'avenir. Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, vous pouvez nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le gouverneur de l'Équateur est démis de ses fonctions par un décret présidentiel rendu public le 15 mars dernier. Selon cette ordonnance présidentielle, la décision a été prise afin de mettre un terme à la crise institutionnelle qui a prévalu dans la province. Mais signalant que le limogeage de Jean-Claude Bayende ne résout qu'à moitié la crise institutionnelle dans la province de l'Équateur, car le bicéphalisme à l'Assemblée provinciale demeure avec deux bureaux permanents de cette institution. Le point avec vous, Guy Maté.
La nouvelle de la révocation du gouverneur Jean-Claude Bayende est tombée à Mbandaka comme un coup près. Certains Mbandakais ont jubilé en apprenant cette décision du chef de l'État. Ses partisans, bien que déçus, n'ont pas bronché pour autant. Cette révocation a été saluée notamment par la majorité des députés de l'Assemblée provinciale qui avait voté le 17 décembre dernier par 70 voix contre 2 la motion de défiance contre Bayende. Satisfaction aussi pour la coordination des deux plateformes de la société civile qui estimait que, je cite, la province était prise en otage par une personnalité qui s'est réclamée de la majorité présidentielle, fin de citation. Celle-ci avait demandé au chef de l'État de s'impliquer en vertu des prérogatives que lui confère la Constitution afin de mettre fin à la crise institutionnelle qui paralysait cette province. Toutes les motions pour le contrôle des gestions des finances de la province de l'Équateur étaient bloquées à l'Assemblée provinciale, selon certains députés provinciaux. Des groupes de délinquants que certains de ses adversaires ont qualifiés de milices acquises à sa cause ont perturbé plus d'une plénière pour éviter que ces motions ne passent. Des incidents de ce genre se sont succédés. Conséquence, le gouvernement provincial dirigé par Jean-Claude Bayende n'a jamais été contrôlé par l'Assemblée provinciale. Cependant, bien que la révocation du gouverneur de l'Équateur soit applaudie par beaucoup, l'on constate qu'elle ne résout qu'à moitié la crise institutionnelle dans cette province. L'Assemblée provinciale se retrouve encore avec deux bureaux permanents, l'un dirigé par Gaston Quilio, acquis à la cause de Jean-Claude Bayende, l'autre par Jean-Gontra Ibambe, qui a dirigé la plénière ayant abouti au vote de la motion de défiance contre celui-ci.
Merci Guy Maté pour ces détails. Réaction de l'ADH, l'Alliance des démocrates humanistes, parti de Jean-Claude Bayende, prend acte de l'ordonnance présidentielle qui relève son autorité morale de ses fonctions de gouverneur. Selon le président de l'ADH, Joseph Bangakia, l'Alliance des démocrates humanistes exprime le souhait de voir s'organiser au plus vite l'élection d'un nouveau gouverneur. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
Je m'incline, je prends acte de la décision du président de la République. Je crois que le problème qui se posait, c'était le climat de crise persistant qui existait dans la province de l'Équateur, où, comme vous le savez depuis longtemps, ce sont épisodes sur épisodes. Et je crois que le président a jugé plus utile de faire usage du dernier alinéa de l'article 198, de retirer le gouverneur, afin de permettre que la crise se résolve. Mais il n'en reste pas moins que le gouverneur Jean-Claude Bayende, qui a fait un discours hier remerciant le président, car quatre ans de confiance, ce n'est pas peu, a appelé la population au calme. D'ailleurs, toute la province s'est réveillée dans le calme. C'est vrai qu'il regrette un peu parce qu'il n'y a pas de scène de liesse. Ce qu'il faut maintenant, c'est que la province se rattrape. Il faut que les gens donnent la chance à la paix et à la sérénité dans cette province.
C'était là Joseph Bangakia, président de l'ADH. Maître Soudi Kimputu Alimasi, je rappelle que vous êtes expert en décentralisation. Quelle analyse faites-vous de la révocation du gouverneur de la province de l'Équateur?
Merci beaucoup Kelly de la parole que vous m'accordez. Je voudrais d'abord saluer nos auditeurs, la radio Capi, avec lesquels on a appris à échanger autour des sujets importants du pays. Je voudrais que tout le monde me suive bien à ce sujet. J'ai suivi des mots qui viennent de sortir, révocation, limogeage, ainsi de suite. Je crois que la Constitution et la loi sur la libre administration des provinces nous donnent des précisions à ces sujets. Il ne s'agit pas de la révocation. Il ne s'agit pas non plus du limogeage.
Il s'agit de quoi ? De la destitution ?
Il s'agit d'un acte d'arbitrage du président de la République.
Mais comment on appelle cet acte ?
Et la Constitution dit à l'article 198, alinéa 10, en cas de crise persistante pouvant entraîner les dysfonctionnements des institutions, le président de la République peut relever le gouverneur de province de ses fonctions. Le président dispose à l'article 197 des mêmes dispositions pour l'Assemblée provinciale. Ce que j'aimerais préciser, que le président de la République, il ne s'agit pas d'une sanction. Le président de la République ne dispose pas, au regard du respect du principe de libre administration, de la possibilité de sanctionner par révocation un élu au niveau de la province, comme le gouverneur de province, moins encore l'Assemblée provinciale. C'est pour cette raison que le soubassement de ces deux dispositions, c'est l'article 69 de la Constitution, qui donne au président de la République, en tant que garant de la nation, garant du fonctionnement des institutions, la possibilité de jouer ce rôle en termes d'arbitrage. Voilà pourquoi j'aimerais que tout le monde retienne que le président de la République n'a pas révoqué M. Baïndé.
Il a relevé de ses fonctions.
Il n'a pas limogé, il a relevé de ses fonctions. Et ceux qui parlent français, ils peuvent trouver des significations qu'ils peuvent trouver, mais ils pouvaient commettre le même acte vis-à-vis de l'Assemblée provinciale, et dans ces cas, on parlerait de la dissolution de l'Assemblée provinciale.
Mais ça dit la même chose, limogeage, relevé de ses fonctions, c'est juste une guerre des mots, Maître Soudi.
Pas du tout, la révocation est une sanction. Le limogeage est une sanction. Mais le fait de relever les gouverneurs de province ici, ce n'est pas une sanction. C'est parce qu'il y a eu dysfonctionnement des institutions, il fallait poser un acte vis-à-vis d'une des institutions provinciales pour permettre à ce que un autre vent puisse arriver et permettre à ce que les institutions de cette province-là puissent continuer. Il pouvait faire la même chose au niveau de l'Assemblée provinciale.
Alors merci pour cet éclairage, mais comment vous analysez cet acte du président de la République?
Je crois que je suis passé sur ce plateau il y a quelques jours au sujet de cette question-là. Vous m'aviez encore posé la question. Je vous avais dit clairement que le président de la République, compte tenu de ces dysfonctionnements constatés, c'est un cas pratique de cette disposition, de ces deux dispositions de la Constitution. Parce que vous l'avez dit vers la fin, que même si on a relevé le gouverneur Baïndé de ses fonctions, on n'a pas résolu l'ensemble des problèmes. Parce qu'il y a deux bureaux de l'Assemblée provinciale qui sont en train de se quereller pour diriger cette Assemblée. Donc, il y a encore un problème. Et ici, je crois que le président de la République a posé un geste. Il faudra que la CENI puisse se saisir des dispositions constitutionnelles pour organiser les élections d'un nouveau gouverneur dans le délai, et que l'on puisse maintenant voir si les problèmes qui se trouvent au niveau de l'Assemblée provinciale vont persister. Si ces problèmes persistent, le président de la République, on ne lui empêche pas de prendre encore un autre acte. Donc, ces députés de l'Assemblée provinciale, ils doivent s'attendre aussi à ça. S'ils ne trouvent pas rapidement de solution, le président de la République dispose encore, sur le plan constitutionnel, de la possibilité de dissoudre aussi l'Assemblée provinciale de manière à permettre à ce qu'il y ait d'autres élus non conflictuels qui puissent venir diriger cette province-là.
Alors, il y a certains observateurs qui estiment que ce geste ou cet acte posé par le chef de l'État arrive tardivement parce qu'on a laissé pourrir la situation alors qu'on pouvait prendre cette décision un peu plus tôt.
Bon, de l'œil de l'expert, je ne pense pas. Parce que s'il les prenait aussi hâtivement, il y en a qui pouvaient les condamner davantage. Vous savez qu'il y a... Moi, par exemple, je m'attendais à ce que ce soit l'Assemblée provinciale qui soit dissoute. Parce que, si au sein de l'Assemblée elle-même, il y a deux bureaux qui se querellent la conduite. Et cette Assemblée provinciale-là, on ne reproche pas que des choses au gouverneur. Il y a des choses qui sont reprochées à cette Assemblée, hormis cette bipolarité des équipes qui veulent diriger l'Assemblée provinciale.
Donc le problème n'est pas résolu.
Le problème, il est résolu en partie, mais il faudra voir maintenant, après les élections du nouveau gouverneur, comment l'Assemblée va se comporter pour la suite des événements.
Merci Maître Soudi Kimputu. Michel Somoué, je rappelle que vous êtes économiste et expert indépendant. Quelle est votre lecture de cet acte posé par le chef de l'État?
Heureusement Kelly, que je ne suis pas juriste, parce que les juristes sont champions de confusion dans les termes. On ne sait pas finalement ce que le droit appelle sanction. Mais moi, j'ai comme l'impression que relever quelqu'un de ses fonctions est une sanction prise par le chef de l'État. Mais tout compte fait, j'estime pour ma part que la décision qui a été prise par le chef de l'État, elle n'est pas injuste. Elle est peut-être plutôt un peu partiale. Partiale parce que, comme l'a dit Maître tout à l'heure, au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a aussi une grande confusion, une énorme confusion. Je n'ai jamais vu un tel cas dans ce pays depuis que nous avons commencé le processus démocratique avec deux bureaux en train de fonctionner concurremment dans une même province. Ça traduit une énorme division, un énorme dysfonctionnement du système. C'est pas correct. C'est vrai que les reproches qui ont été faits à Jean-Claude Bayende sont probablement fondés. Probablement, je dis bien, parce que j'ai suivi beaucoup de témoins qui disent qu'il n'y a pas eu contrôle parlementaire pour qu'on conclue qu'il y aurait eu malversation financière. Et j'ai suivi aussi à la chaîne de télévision un député provincial qui est surpris d'apprendre que quand on reproche à Jean-Claude Bayende d'entretenir des milices, parmi les milices qui sont citées, il y a le nom des députés provinciaux. De comment un député peut-il en même temps être un clown, ça ne va vraiment pas. Donc on sent quand même quelque part que...
Donc il y a à boire et à manger vraiment, dans toutes ces accusations contre Jean-Claude Bayende.
Oui, il y a beaucoup. Alors, mais je me dis si vraiment on devait analyser de façon sereine la pertinence de la décision du chef de l'État, j'appelle moi de la sanction du chef de l'État, je pense qu'elle est fondée. Et les partiels, disais-je tout à l'heure, parce que je me pose la question de savoir combien de gouverneurs de provinces dans notre pays pourraient donner des leçons à Jean-Claude Bayende, du point de vue de la gestion des finances publiques, par exemple. Combien peuvent vraiment se tarder d'être corrects dans la gestion des finances publiques? Si on doit sanctionner cette faute-là de malversation financière, combien devraient rester encore? J'ai comme l'impression qu'on n'aurait aucun gouverneur en fonction aujourd'hui, si on doit être sévère. C'est ici l'occasion d'interpeller la justice, parce que tout compte fait, ce n'est pas normal non plus que on puisse amener le chef de l'État à intervenir de façon, je dis bien partiale. Partiale parce que si on prend une faute commise, mais il faut l'appliquer à tout le monde, surtout dans le cas d'espèces où il n'y a pas eu contrôle. On est parti des simples présomptions, des préjugés, et on a pris une sanction. Mais qu'on fasse de même pour tout le monde. Alors je me dis que...
Lorsque vous parlez de tout le monde là, vous voyez l'Assemblée provinciale de l'Équateur?
Je ne vois pas que l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Je vois la mauvaise gestion de tout notre pays à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Partout, il y a des malversations financières. Partout, les gouverneurs de province se comportent comme des propriétaires des provinces, des caisses du trésor. Et c'est comme ça que notre pays continue à sombrer tous les jours dans la misère, dans la pauvreté. Les gens pleurent. Les gens crient. Vous faites les voyages à l'intérieur. J'ai vu des images de la province de l'Équateur lorsque une mission de la Banque mondiale s'y était rendue. C'est affreux à voir. Mais ce n'est que un prototype de ce qui fonctionne, de ce qui existe effectivement à travers tout notre pays. Vous visitez nos écoles à l'intérieur du pays. Vous visitez nos routes à l'intérieur du pays. Mais c'est catastrophique. On se pose la question de savoir si vraiment les provinces sont gérées. C'est une question fondamentale. Mais je pense que cette décision de chef de l'État devrait interpeller beaucoup de gouverneurs. J'estime que c'est un acte de courage qu'il a, et de responsabilité qu'il a posé. Mais je souhaite qu'il soit prompt à prendre ce genre de décision et qu'il tourne des regards vers tous ceux qui sont en train de se comporter de la même façon. Parce que
et par rapport à la crise dans la province de l'Équateur, il y avait une crise quand même persistante. Les institutions provinciales, ne n'arrivaient plus à travailler dans l'harmonie. Il a relevé de ses fonctions, Jean-Claude Bayindé, l'Assemblée provinciale n'y siège même pas. Est-ce que vous pensez que le fait de faire partir Jean-Claude Bayindé pourrait mettre les députés en commun accord se mettre d'accord pour la suite des événements ou pour le fonctionnement de l'Assemblée provinciale?
Vous faites mal de prendre le verbe au passé quand vous dites il y avait crise.
Il y a crise, elle continue parce que l'Assemblée n'y siège pas.
La crise continue. Mais écoutez, je ne veux pas être un prophète de malheur, je ne veux pas jouer au devin, mais j'ai quand même l'impression que le problème de l'Équateur est un problème de dissension profonde entre les acteurs politiques de cette province qui ne s'entendent pas. Il n'y a pas longtemps, on a fait partir de la même province dans des conditions pas tout à fait similaires, mais à peu près la même chose, l'ancien gouverneur de province, Makila. Il a été pratiquement limogé, presque de la même façon. Alors qu'on avait l'impression que, à l'entendre parler, à le voir, à voir des actions, on avait l'impression que l'Équateur avait eu un bon gouverneur. Je dis bien l'impression. Jean-Claude Bayindé, j'ai même entendu un de vos auditeurs regretter le départ de Jean-Claude Bayindé en disant que c'est quelqu'un qui avait déjà amorcé, qui venait d'amorcer les actions de développement. Mais j'ai l'impression que la crise de la province de l'Équateur, la crise institutionnelle, ne finira pas du simple fait du départ de Jean-Claude Bayindé. La crise institutionnelle doit finir avec l'organisation des élections provinciales. Il est temps que le gouvernement s'y penche vite pour qu'il y ait une nouvelle assemblée provinciale qui soit elle-même légitime parce que sortant des élections légitimes.
Merci, je vais vous redonner la parole, Michel Soumé. Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique. Ce geste que le chef de l'État a posé par rapport à Jean-Claude Bayindé, comment vous l'analysez? Est-ce une bonne décision de Joseph Kabila, président de la République?
Bon, la décision vaut son pesant d'or. Mais ce que j'avais voulu ajouter à ce que mes prédécesseurs ont dit tout à l'heure, c'est que de quelle crise s'agit-il à l'Équateur? C'est là qu'il y a aussi un problème. Je crois qu'à l'Équateur, il y a une crise politique d'abord. Il y a une crise politique, c'est-à-dire que ceux qui ont la responsabilité politique, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de faire et de faire faire, ils n'ont pas réussi leur mission. C'est la première chose. Et cette crise politique entame la crédibilité des institutions. Et elle se transforme en crise institutionnelle. Et cette crise institutionnelle est aussi la conséquence d'une crise structurelle, c'est-à-dire d'une carence, n'est-ce pas, de capacité des animateurs, des gouvernants, à pouvoir jouer leur jeu en tant que responsables politiques. Et là, ce sont des éléments essentiels. Je crois que même la décision du président de la République, je ne sais pas comment l'argumenter, l'arrêté ou l'ordonnance du président de la République. La Constitution est claire, Maître vient de le dire tout à l'heure, c'est un cas de crise persistante. Quand on ajoute aux éléments la mi-gestion financière, je ne sais pas si on reste dans la Constitution. Mais moi, ce que je sais, c'est que à la modification de la Constitution, il a été dit clairement qu'un cas de crise persistante est... Je crois que la crise, elle est d'abord politique. Et les autres éléments qui viennent sont des éléments secondaires. Voyez-vous? Alors, Maître Soumé venait tout à l'heure que la décision était tardive. Je crois que c'est en ce moment, c'est là que je réponds à cette question. Je crois qu'on doit attendre la situation pourrir. C'est ça l'esprit de la loi. On dit une crise persistante. Et quand une crise persiste, elle se transforme en anarchie. Et nous sommes arrivés à l'anarchie, et je crois que c'était le moment propice. Ça, c'est la logique de la loi.
Avec toutes les conséquences possibles.
Avec toutes les conséquences possibles, la crise a persisté, elle a pourri, elle a donné lieu à une certaine anarchie. Et le président de la République a intervenu, selon la disposition constitutionnelle, comme elle vient de le dire tout à l'heure. Donc, vous voyez que nous sommes dans une situation de chaos, en fait. c'est-à-dire ceux qui ont la responsabilité de gérer, ils sont passés à côté avec tout ce que nous avons comme élément, n'est-ce pas, sous lesquels ils sont rapprochés, avec toute la confusion qui caractérise le fonctionnement des institutions provinciales, on a vite l'impression que les uns considèrent les positions du pouvoir ou ils gèrent les positions du pouvoir d'une gestion patrimoniale et les autres, ils manquent cette culture, cette vertu républicaine, n'est-ce pas, de pouvoir assumer pleinement leurs responsabilités politiques. Et cette situation a perduré. Elle a créé cette crise et qui a fait intervenir la décision du président de la République, l'ordonnance du président de la République qui met de côté le gouverneur. Moi, je trouve, d'ailleurs, vous avez senti que il y a très peu de débats, très peu de réactions négatives autour de cette, simplement parce que la situation a pourri et elle a entamé pratiquement, si vous voulez, la vie démocratique de la province.
Alors, on a suivi Michel Sommé qui a parlé des décisions partiales.
Je disais qu'elle n'était pas partiale. Parce que si on doit remplacer le gouverneur, qui doit voter le gouverneur? Qui doit élire le gouverneur? C'est l'Assemblée provinciale. Alors, si c'était la province...
Mais au sein de l'Assemblée provinciale, il y a une crise aussi.
Je dis ceci. Si c'était l'Assemblée provinciale qui s'est dissoute, alors en ce moment-là, vous voyez que nous serions devant une situation de cul-de-sac. Voyez-vous? Je crois que le président, en choisissant le gouverneur, plus tous les éléments qui lui ont été rapprochés, je crois qu'il a joué la prudence pour que la province puisse avoir de nouveaux animateurs politiques.
Alors, il y a des auditeurs qui nous écrivent. C'est le cas de Roger Bongao de Mbandaka qui dit ceci, Joseph Kongolo, que les politiciens de l'Équateur cassent les barrières nord-sud en mettant la tête de la province. Un homme qu'il faut à la place qu'il faut, que toute tendance confondue considère l'Équateur comme leur bateau flottant et mette à sa disposition un dirigeant intègre, loyal et pacificateur. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi cette barrière nord-sud qui joue aussi sur cette crise dans la province de l'Équateur, hein?
D'ordinaire, ce sont des réalités qui existent dans toutes les provinces. Quand vous allez dans toutes les provinces, vous trouvez toujours des fissures entre nord-sud ou centre, entre, je ne sais pas, dans toutes les, il y a ces réalités, mais elles sont latentes. Là où elles sont actuelles, elles sont ouvertes, je crois qu'il appartient aux notables de la province, n'est-ce pas, de gérer ces situations. Il ne faut pas absolument faire intervenir des lois pour gérer le comportement individuel. Je crois qu'il y a des situations dans lesquelles les notables, certaines structures informelles, doivent jouer, n'est-ce pas, le jeu de manière à atténuer certaines divergences et savoir les gérer. Bon, moi, je crois que la province, il y a, c'est vrai, au-delà de la nouvelle... des nouvelles provinces qui doivent exister, je sais que ça va résoudre énormément de problèmes, n'est-ce pas? Parce que la province de l'Équateur, l'actuelle province de l'Équateur va éclater en quatre provinces. Je crois que ça va résoudre énormément de problèmes. Mais là, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Il y a des divergences, c'est vrai, mais il y a lieu toujours de les atténuer et de mettre les gens ensemble, créer une certaine ambiance de convivialité.
Alors, Maître Soudia, cet auditeur de Louélé dans la province, de l'université de Louélé dans la province orientale, chef des travaux Félix Foufoulafou, qui dit ceci, ce n'est pas seulement les changements des animateurs qui peuvent résoudre les problèmes de la province de l'Équateur, mais il faut aussi ajouter la question d'influence des animateurs du pouvoir central sur le système politique des provinces qui doit volontairement prendre fin pour éviter de revenir sur le cycle infernal de révocation ou d'émission qui malheureusement bloque le développement des provinces.
Je crois que cet auditeur, c'est comme s'il était dans ma tête. C'est comme s'il résonnait en même temps que moi. Je voudrais d'abord, avant de lui donner des détails sur sa question, revenir sur l'acte du président de la République. Le président de la République, je le répète, avec... toutes les assurances qu'il n'a pas sanctionné M. Baïndé pour mes gestions, ainsi de suite. Il ne s'agit pas ici d'une sanction. Il s'agit d'un arbitrage. Je l'ai précisé.
Ok, merci de préciser.
Ok. Et si vous voyez l'acte du président de la République, ça n'a pas repris la même gestion. Ça n'a pas repris l'entretien des milices. Non. On a dit... On a juste repris les dispositions, c'est ça la motivation, les dispositions de l'article, l'alinéa 10 de l'article 198 de la Constitution. Alors, qu'est-ce qui a entretenu cette crise persistante? Nous avons quand même l'occasion de suivre de près ce qui se passe. L'Assemblée provinciale et même une partie au sein du gouvernement provincial. Ces deux institutions ont été prises en otage par la notabilité de l'Équateur, qui pour la plupart sont ici à Kinshasa. Et tout ce qui se passe sur le terrain est téléguidé à partir de Kinshasa. Ce qui fait que, à un moment donné, moi je me souviens, on a débattu ici que quand les gouverneurs donnaient de l'argent pour acheter des tôles, ils les donnaient aux députés, ça allait bien.
Vous avez des preuves que ce sont les notabilités de l'Équateur qui sont à Kinshasa qui entretiennent.
Mais on en a même débattu ici et ils sont même intervenus en direct sur cette émission de la radio. Heureusement que vous avez des archives.
Et ils ont reconnu que c'était eux qui entretenaient cette crise, M. Soudi.
Alors, aujourd'hui, il était impossible de concilier le gouvernement provincial à l'Assemblée provinciale. Et à l'intérieur même de ces institutions, il y a des dissensions entre eux. Ce qui a créé vraiment un désordre permanent. Et le président de la République, c'est là que je reviens à ce que M. Michel a dit, il devait attendre que cette crise-là puisse persister effectivement. Parce qu'il n'a pas le droit de s'ingérer. Nous sommes dans un régionalisme politique.
C'est plutôt Joseph Kongolo, pas Michel.
Excusez-moi, M. Joseph. Alors, nous sommes dans un régionalisme politique où les provinces n'ont pas de pouvoir de tutelle. Nous sommes proches du fédéralisme. Les provinces ont des attributions propres à elles qui empêchent aux institutions, aux organes du pouvoir central de s'ingérer dans leur gestion. C'était une brèche que la Constitution a donnée. Vous avez suivi que ces deux articles ont fait l'objet des modifications. Je me souviens dans les travaux préparatoires au Parlement lorsqu'on élaborait la loi sur la libre administration des provinces. Ces dispositions devaient faire partir déjà dans la loi de la libre administration des provinces. Parce qu'on pressentait ce qui est arrivé aujourd'hui à l'Équateur. On a relevé de ses fonctions M. Baïndé, mais avant lui, il y a José Makila qui était là. Apparemment, c'était la même nature de problèmes qui ont existé. Heureusement, M. Makila a été sanctionné parce que M. Makila a fait l'objet d'une motion. Voilà la sanction. Les organes habilités à sanctionner un gouverneur de province, l'Assemblée provinciale. Quant à la malversation ou à la mauvaise gestion, il faut que les gens aient la culture de lire les documents qui nous régissent la Constitution. Il y a la Cour des comptes qui peut exercer ses contrôles et l'Inspection générale des finances. Il n'appartient pas aux politiciens de décréter. Et puis il y a des mécanismes de mise en accusation. Quand le président de la République relève de ses fonctions, vous n'avez pas suivi que le président de la République a mis en accusation M. Baïndé pour avoir fait ceci ou cela. Donc, il faudra que nous puissions rester. C'est très difficile de parler technique et politique. c'est difficile, malheureusement, mais nous devons dire ce qu'il y a dans les textes qui nous régissent.
Michel Sommoyer, réaction par rapport à l'analyse de Maître Soudi?
Non, mais je crois que Maître Soudi a dit des choses qui sont correctes, même si il refuse absolument l'utilisation du mot sanction par le chef de l'État. Moi, je prends sanction au sens de décision, point barre. Mais quant à ce qui concerne l'organe compétent, mais j'ai cru entendre dire que l'Assemblée provinciale avait voté une motion de défiance à l'égard du gouvernement Baïndé au mois de décembre 2012. Donc ça veut dire que l'organe compétent avait déjà retiré sa confiance, parce qu'en fait, à la limite, ce sont les députés provinciaux qui avaient fait de Baïndé le gouverneur de province. C'est encore eux qui lui ont retiré leur confiance. Quoi de plus normal? C'est déjà un fait. Moi, je pense que déjà depuis ce moment-là, on aurait pu déjà tirer toutes les conséquences de cette situation si on voulait assurer la sérénité du fonctionnement des institutions au niveau de la province de l'Équateur. C'est là que je dis, le président de la République aurait dû réagir depuis ce temps-là, plutôt que de laisser la situation comme on l'a décrit aujourd'hui avec des milices, des colonnes qui entrent dans la salle pour empêcher les députés provinciaux de faire tel travail. Moi, je pense que ce sont des choses qu'on devrait éviter dans une société civilisée comme la nôtre, nous sommes au 21e siècle.
Alors, la Constitution dit qu'il faut attendre que la situation pourrisse, comme l'a dit Joseph, et Maître Soudi qui a appuyé ça.
C'est pas la Constitution qui l'a dit, que je sache.
La Constitution, il faut que la crise persiste pour qu'on intervienne.
Évidemment, la Constitution dit en cas de crise persistante. Mais persistante, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un délai à partir duquel on peut considérer que c'est persistant? Est-ce que on ne peut pas considérer qu'une crise persiste en dehors d'une semaine? en dehors en 3 jours. Mais quel est le délai à partir duquel on peut parler de la persistance de la crise? Non, je pense que la, peut-être que le mot, je suis pas juriste, je suis pas constitutionnaliste, mais peut-être que le mot n'a pas été bien, n'est pas très heureux, mais je crois que il fallait plutôt parler d'une crise grave, comme celle qui prévaut aujourd'hui dans la province de l'Équateur. Et je pense que le chef de l'État doit encore garder son regard fixé sur cette province. Aujourd'hui, nous attendons encore de nouvelles sanctions quant à ce qui concerne ce bicéphalisme qui continue à exister au sein de l'Assemblée provinciale. Il faut que des sanctions tombent.
Alors, il y a l'ADH, le parti de Jean-Claude Bayende, qui souhaite voir organiser des élections pour avoir un nouveau gouverneur. Quel pourrait être, selon vous, le profil que devrait avoir ce prochain gouverneur de la province de l'Équateur?
D'abord, ça doit être un bon patriote, un nationaliste avéré, et quelqu'un qui a de l'amour pour sa province et pour ses frères. Ça, c'est très important. Et le malheur de notre pays est que nous avons sombré trop dans le culte de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Les gens recherchent du pouvoir pour sortir de leur propre misère personnelle et pour écraser les autres. Parce qu'une fois au pouvoir, vous écrasez même les amis avec lesquels vous avez partagé toutes les souffrances. Vous voulez qu'on vous voie, vous voulez que tout le monde vous adore. C'est déjà un problème. Je pense que la province de l'Équateur a quand même ce privilège d'avoir des hommes de bonne qualité. Ils sont nombreux, des intellectuels rompus et des hommes que je peux considérer comme des gens très expérimentés dans la gestion de la chose publique. Ils sont nombreux dans la province de l'Équateur. Ils sont tout à fait nombreux. Et on les voit, on les suit, on les a côtoyés, on les connaît, ils sont nombreux. Moi, je pense que le premier critère, c'est d'abord des hommes d'une certaine moralité.
Merci.
Moralité. Parce qu'il faut moraliser la vie politique.
Merci, Michel Sommet. Que faut-il pour relancer le développement de la province de l'Équateur? C'est la deuxième partie de cette émission. Je rappelle que je reçois dans cette émission pour les débats Maître Soudi Kimputu Alimasi, expert en décentralisation, Michel Sommet, économiste expert indépendant, et Joseph Kongolo, analyste politique. Certains notables politiques originaires de la province de l'Équateur pensent que la relance du développement de l'Équateur passe par l'unité et la volonté politique des fils et filles de cette province, une volonté qui doit passer par le choix judicieux des animateurs de cette province. On les écoute au téléphone de Samuel Kachak.
Sébastien Dambou, président du groupe provincial des sénateurs de l'Équateur, ainsi que président de la commission politique administrative du Sénat. Pour relancer la province de l'Équateur, il faut que nous ayons des bons animateurs, avec des visions bien précises, avec une création d'émulation dans la population paysanne, pour que chaque paysan se mette au travail, sachant que l'autre va le dépasser. Mais cela doit commencer par le travail de route de dessert agricole. Si cela est engagé, en même temps, l'éveil vont entrer dans les milieux ruraux pour acheter les produits agricoles. Ainsi, l'agriculture prendrait du fil pour pouvoir se reconstruire et augmenter. Mais il faut aussi permettre aux villageois l'élevage soutenu par des produits vétérinaires.
Jean-Baptiste Bomanza, coordonnateur agent chargé de la communication et médias et porte-parole de l'Union pour la Nation. Pour relancer le développement de la province de l'Équateur, il y a la forêt de l'Équateur. Et il faut qu'il y ait des retombées de cette forêt-là pour le développement de l'Équateur. Deuxièmement, l'Équateur a beaucoup de cours d'eau. Et je crois qu'avec ces cours d'eau-là, à commencer par les fleuves, si on organise la pêche même semi-moderne, vous voyez ce que ça peut faire. L'Équateur aussi a des sites touristiques qui peuvent drainer les touristes et cela va faire des recettes pour le bon fonctionnement de la province de l'Équateur.
Honorable Roger Deofanange, député provincial élu du territoire de Mobaïmbongo. Pour arriver à un développement de la province de l'Équateur, il faut remettre les gens au travail. De deux, que les dirigeants qui doivent jouer leur rôle de catalyseur dans ce développement cessent de se comporter comme de simples jouisseurs. Ils doivent travailler en synergie avec l'organe délibérant qui est chargé justement aussi de les contrôler. Nous voulons qu'il y ait un gouverneur acteurs responsables expérimentés dans la gestion des affaires publiques.
Je suis l'honorable José Makila, l'élu de la circonscription électorale de Guémena, l'ancien gouverneur de la province de l'Équateur. Pour relancer le développement de l'Équateur, il faut que les hommes politiques de l'Équateur se mettent ensemble et regardent dans la même direction. Aujourd'hui, le développement de l'Équateur ne dépend pas d'un seul individu, parce que seul, il ne pourra rien faire. La deuxième des choses, il faut que le pouvoir central puisse comprendre que l'Équateur n'est pas l'ennemi de la République. C'est une des provinces de la République, donc elle doit être traitée comme toutes les provinces de la République. La troisième des choses, c'est de faire prendre conscience aux Équatoriens qu'il n'y a que eux et eux seuls qui peuvent développer leur province.
Joseph Kongolo, la relance du développement de l'Équateur passe par l'unité et la volonté politique de ses fils et filles.
Oui, au-delà de tous ces éléments, je crois que c'est correct. Ce sont des vœux pieux, d'ailleurs, pour tous. Mais je crois qu'il y a des éléments essentiels, n'est-ce pas, pour qu'il y ait développement.
Lesquels?
Il y a d'abord la gouvernance. C'est la première chose, c'est le premier élément du socle dur d'un développement. Il faut intégrer dans la gouvernance des valeurs éthiques, des valeurs morales, pour bien gérer les hommes et changer, n'est-ce pas, la situation dans la province. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut avoir la capacité d'agir, c'est-à-dire élire des gens qui aient la capacité d'agir, la compétence professionnelle et aussi exercer un leadership éclairé. C'est très important, exercer un leadership éclairé. Vous savez, la province de l'Équateur, c'est une très grande province. Vous dites qu'il y a beaucoup de divergences de points de vue et d'opinions. Il faut un leadership qui soit éclairé pour mettre les gens ensemble, voyez-vous. Donc, un autre élément, c'est la participation. Il faut que les populations de la province apprennent à participer à la détermination des finalités, des choix politiques, à leur exécution et aussi à leur évaluation. Là, ce sont des éléments qui concourent, n'est-ce pas, à un développement. Et en plus de ça, ils doivent aussi, il faut évidemment des équipements et des infrastructures, et dans tout ça, il faut le suivi, le contrôle. Ce sont des éléments essentiels pour poser les fondements, n'est-ce pas, d'un développement prochain de la province de l'Équateur.
Alors, Maître Soudi, on sait que l'Équateur est une province très riche. Mais comment il faut relancer son développement? Par quoi faut-il commencer? Comme l'a dit Joseph Kongolo, par une bonne gouvernance d'abord?
Je pense que la bonne gouvernance est un élément. Je n'ai jamais été d'accord avec ceux qui croient qu'il y aura toujours de l'unanimité au sein d'une entité, autour d'un animateur. Cette unanimité, c'est illusoire, il n'y en aura jamais. Moi, je pense qu'il faudra qu'il y ait, surtout pour le cas de la province de l'Équateur, qu'il y ait moins d'interférences dans la gestion de la province. Je souligne bien le mot interférence.
Au niveau des
institutions, à l'Assemblée provinciale, que ce soit au niveau du gouvernement provincial. Parce que tout celui qu'on pourra élire, hier c'était José Makila, tout le monde a applaudi quand il a fait les routes, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est Baïndé, j'ai suivi l'un de vos auditeurs qui a dit que lui, il a aussi fait beaucoup de projets, d'infrastructures, ainsi de suite, mais il est parti. Mais si vous voyez dedans, c'est la question d'interférence qui a poussé à ce qu'il y ait des réactions épidermiques au niveau des assemblées provinciales et qu'il y ait un blocage entre la collaboration entre institutions. Nous devons rester dans les règles du jeu. Il faut accepter l'opposition, il faut accepter la majorité au niveau de du fonctionnement de la province, que ce soit au niveau national. Mais si ça fonctionne bien, il y aura contrôle parlementaire, il y aura possibilité d'évaluer l'action de différents animateurs du gouvernement provincial, il y aura possibilité aussi d'évaluer le fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Parce que l'Assemblée provinciale n'est pas là seulement pour voir ce que le gouverneur va poser comme acte. Il y a des actes législatifs qui doivent aussi produire pour permettre le bon fonctionnement du gouvernement provincial. Mais si vous faites le bilan de l'Assemblée provinciale, ils ont passé toute la législature en train de se créer des problèmes mutuellement. Mais il y a aussi un problème qui est un peu général et que je voudrais l'évoquer.
Allez-y,
c'est cette difficulté de rentrer dans les cycles électoraux aujourd'hui, même cette assemblée-là qui pose problème aujourd'hui, elle a déjà dépassé son mandat. Elle est déjà au-delà de 5 ans, ils sont en train de gérer des périodes transitoires. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment, et ça c'est sur l'ensemble du pays, permettre à ce que nous soyons dans des cycles normaux qui puisse permettre ainsi qu'il y ait renouvellement des institutions. Ces gens-là ont fait plus de 5 ans, ils se connaissent, ils ont des intérêts privés qu'ils amènent dans les institutions, ce qui fait que ça peut être un autre gouverneur qui ne répond pas à leurs aspirations et ça peut créer toujours des problèmes.
Merci, Maître Soudi. Michel Somme, économiste et expert indépendant. La province de l'Équateur est une province très riche mais qui ne décolle pas.
Elle ne décolle pas, comme beaucoup, comme toutes les autres provinces de la République d'ailleurs. Or, quand vous regardez la province de l'Équateur à elle seule, elle fait presque 13 fois un pays comme la Belgique, que nous considérons dans seulement certaines proportions comme un pays relativement développé par rapport à nous autres. Parce que la Belgique, c'est 250 milliards d'euros de PIB. Donc un pays qui peut nous aider, et elle nous aide il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours, si j'ai vu le ministre belge qui est venu encore signer des accords, c'est pour nous donner quelques 40 ou 50 millions de dollars. Dans ce pays. Je pense que si nos gouverneurs prennent conscience qu'ils sont à la tête, non pas des entités quelconques, mais qu'un gouverneur d'une province comme celle de l'Équateur, il est comme un chef de l'État de 13 Belgique, ou de je ne sais pas moi combien de Luxembourg, combien de Chypre, c'est déjà quelque chose pour échanger. Si nos hommes politiques apprennent à se comporter non pas comme des acteurs de pièces de théâtre, mais comme des responsables, c'est déjà une très bonne chose. Mais quand on veut répondre vraiment à cette question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Équateur redécolle, que toutes les autres provinces décollent, il faut jeter un regard vers l'Occident, où il y a la crise financière. Qu'est-ce que ces pays font pour sortir de la crise aujourd'hui? La réponse est unique, et pas unique, mais la réponse principale est claire. C'est le financement du développement. Vous ne pouvez pas prétendre à un développement si vous n'avez pas un financement de développement. Cela appelle alors une politique d'ordre général. C'est au niveau de l'économie nationale, au niveau de l'État, du gouvernement central. Quelle est la politique du gouvernement central pour le développement intégré de notre pays? Et donc le développement des provinces, pour la mise en valeur de toutes ces dotations naturelles. J'ai entendu tous les intervenants faire comme Bomanza, parler de la forêt, de l'eau, du potentiel agricole énorme. Et c'est tout à fait vrai. Mais qu'est-ce que le gouvernement envisage par rapport à toutes ces dotations naturelles? La forêt. Mais quand le gouvernement capitule déjà en ce qui concerne le crédit carbone, en disant l'accès au crédit carbone est conditionné par des investissements préalables dans le secteur, ça c'est que eux ont dit. Qu'est-ce que nous disons? Mais c'est ça, est-ce que nous sommes là pour gober les politiques des autres? Il nous faut une réflexion plus profonde et une remise en cause, une remise en question de notre système économique national.
Merci Michel Soumé, Joseph Kongolo. Il y a cet auditeur Christophe Mamboléo de Bujumbura au Burundi qui dit ceci: il n'y a pas lieu de parler de rattraper le développement de la province de l'Équateur, car le nouveau gouverneur qui sera élu aura son doute du mal à articuler son programme vu la modicité du temps qui reste à courir, étant donné que les élections provinciales, si l'on croit au gouvernement, pointent à l'horizon. C'est le drame pour la population équatorienne.
Oui, je crois que l'essentiel pour un responsable politique, c'est de jeter les bases, n'est-ce pas? Les allures d'un chef, on sait les voir dès le départ. Dès le premier jour de la prestation de serment, on sait voir les allures de quelqu'un. Je crois qu'il peut jeter les bases, poser les jalons, n'est-ce pas, d'un développement futur, quand bien même il n'aura pas le temps peut-être d'exécuter son programme, mais il peut poser les bases. Mais tout de suite, je voudrais revenir rapidement sur ce que
Michel,
Maître Venedi tout à l'heure. Les interférences politiques existent dans toutes les provinces. Je crois que s'il suit à la loupe ce qui se passe dans les provinces, dans les gestions des provinces, il y a beaucoup d'interférences politiques de la part du gouvernement central, de la part d'hommes politiques au niveau de la capitale, qui interfèrent sur la gestion des provinces. Mais la capacité du leadership local à gérer tous ces problèmes, n'est-ce pas, et à ne pas laisser les conflits s'ouvrir, n'est-ce pas? Et là, c'est un problème. C'est ce que je crois qu'au niveau de la province de l'Équateur, on a manqué. C'est vrai, ils étaient trop sollicités simplement parce que c'est l'unique province, n'est-ce pas, qui a été gérée, n'est-ce pas, qui a une obédience de l'opposition, et il y a eu un peu d'autres éléments, d'autres politiques, n'est-ce pas, qui expliquent cet élément. Mais je crois que la capacité des dirigeants locaux,
merci,
du leadership éclairé pour gérer toutes ces influences et savoir les couler sous forme, n'est-ce pas, de lois qui aident à la convivialité entre les
différents membres. Merci Joseph Kongolo. Je considère cela aussi comme votre conclusion. Une dernière réaction, ingénieur Bernard Tibi de Bukavu Sud, qui vous, le président Kabila a bien fait, mais je souhaite que Jean-Claude Bayende ne soit pas remplacé par un autre Bayende et que le président s'attaque à la cause de la crise vécue à l'Équateur et non aux effets produits par la crise. Maître Soudi, conclusion.
Le président de la République, je l'ai dit, il a fait un arbitrage. Il appartient à la province avec ses institutions de régulariser la situation. Et je pense que si nous avions obtenu les élections locales, parce qu'aujourd'hui, et ça je vous le rappelle encore, les provinces sont des instances de coordination. Le développement local avec la décentralisation commence avec les entités territoriales décentralisées.
Merci Maître Soudi. Merci Maître Soudi. Michel, en un mot, conclusion pour conclure.
Pour organiser les élections provinciales, parce qu'il y a déjà 4 gouverneurs qui sont partis, remplacés par les autres. Nous sommes à la fin du mandat, il faudrait qu'on organise les élections.
Merci Michel Sommet, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur Radio Okapi.